Alors, les enjeux essentiels au niveau de la négociation climatique, c'est d'abord il y a la conscience que la crise écologique est une crise globale, que la crise climatique est une crise globale, et que on ne peut pas la résoudre, on ne pourra pas la résoudre si on ne prend pas en compte la globalité de la crise. Et que non seulement la crise écologique, elle est globale, mais qu'elle a des liens avec les autres crises, avec la crise sociale, avec la crise alimentaire par exemple. Donc à Copenhague, si vous voulez, il y a un enjeu très fort qui est un enjeu écologique. Aujourd'hui, tous les pays sont d'accord, tout le monde, à peu près, il y a un consensus au niveau international pour dire qu'il faut que les pays s'entendent pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire diminuer la consommation d'énergie fossile qui est responsable de l'émission de ces gaz, en particulier du CO2, qui engendre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a un consensus au niveau international là-dessus. On sait qu'il faut les limiter d'ici 2050, de façon drastique. Il faut diminuer par deux au minimum, nous dit le GIEC, les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas dépasser le seuil fatidique des plus 2 degrés de réchauffement, parce qu'au-delà de cela, on serait dans des phénomènes d'emballement climatique non maîtrisables, dont on ne peut pas aujourd'hui même prévoir les conséquences. Donc cet objectif-là, tout le monde, tous les États le reconnaissent, l'objectif pour 2050, diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Pour les pays riches, ça veut dire diviser par quatre, parce que nous émettons beaucoup plus de gaz à effet de serre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que des pays pauvres. Ça veut dire pour l'Union européenne diminuer de 80 à 85% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Là, tout le monde est d'accord. Mais ensuite, il y a beaucoup de désaccords, et c'est l'objet de Copenhague, de la confrontation de tout cela, et la tentative, qui sera sans doute très difficile, de trouver un accord. Pourquoi? Parce que une des solutions qui est envisagée, par exemple, et qui pourtant n'est pas envisageable, c'est le développement, vous le savez, des agrocarburants. Et là, vous allez voir le lien avec la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dit, du fait du réchauffement climatique, il faut consommer moins d'énergie fossile, et donc on va remplacer le pétrole, en gros, par du biodiesel, des agrocarburants. On va les mettre dans nos voitures. Et donc, notamment dans les pays du Sud, que se passe-t-il? On fait de la déforestation massive, ce qui veut dire d'ailleurs, on fait de la déforestation, ça veut dire que les populations qui habitent dans la forêt, qui sont souvent très pauvres et très précaires, sont manu militari parfois chassées de leur habitat, de leur habitation. Pour transformer ces terres en agriculture productiviste, et même si on ne chasse pas de toute façon des paysans, ça s'adresse généralement à de très grandes exploitations, et non pas à la petite agriculture paysanne, qui est l'agriculture vivrière, etc. Et donc, on remplace soit la forêt, soit l'agriculture vivrière par des agrocarburants. On sait qu'une des raisons de la crise alimentaire telle qu'elle s'est manifestée il y a plus d'un an, ça a été le remplacement de terres fertiles et de l'agriculture vivrière par ce type de production. Donc, d'accord, bien sûr, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais nombre de mouvements sociaux du Sud, du Nord, où les mouvements écologistes disent, attention, nous ne voulons pas de fausses solutions. Les agrocarburants, c'est une fausse solution. Parce que, en voulant diminuer les émissions de gaz à effet de serre, je crée de la crise alimentaire. Donc, on est obligé de prendre en compte la globalité de la crise. On ne peut pas prétendre vouloir soigner tel endroit engendrer des déséquilibres partout ailleurs. De même, est discuté à Copenhague la possibilité, pour éviter ces émissions, de étendre encore un peu plus le parc nucléaire. Bon, vous savez que l'énergie, l'électricité d'origine nucléaire, elle produit du CO2, mais en produit moins qu'une centrale à charbon. Donc certains disent, pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, il faut développer le nucléaire. Sauf que On ne va pas engager le débat là-dessus. Il y a, je pense, un point sur lequel qui fait consensus aujourd'hui. Que fait-on des déchets? L'énergie nucléaire représente aujourd'hui 6% de la production d'énergie mondiale. Faut sortir de la France, hein. Nous sommes un pays particulier de ce côté-là. Au niveau mondial, 6% de l'énergie primaire, c'est l'énergie nucléaire. Si on voulait passer à 50 ou 60%, il faudrait la construction de je ne sais combien de nouveaux réacteurs partout dans le monde. Et déjà, que fait-on des déchets? Vous savez que beaucoup de déchets nucléaires, hein, sont posés comme par hasard, hein, dans nombre de pays pauvres ou de régions pauvres, hein, comme beaucoup de déchets toxiques d'ailleurs. Hein, c'est beaucoup dans les pays du Sud qu'ils ont été enfouis, hein, parce que les gouvernements en quête de devises acceptent finalement d'enfouir des déchets qu'envoient les pays riches, hein, pour obtenir des devises. Donc, à Copenhague, il y a des enjeux, comment dire, des enjeux écologiques extrêmement importants et la nécessité de prendre en compte la globalité de la crise et pas simplement le petit bout de la crise. Or, certains pays, en tout cas les plus développés, ont tendance aujourd'hui dans les solutions qui sont proposées à vouloir, hein, trouver des solutions techniques à la crise et donc bien souvent à prendre le problème par le petit bout. Mais l'enjeu essentiel, et c'est là-dessus que je voudrais insister dans le temps qui me reste, ce sont des enjeux politiques à Copenhague et notamment par rapport à la question de la pauvreté dans le monde et de la pauvreté dans nos propres sociétés. En effet, pourquoi ce sont des enjeux politiques extrêmement importants? À Copenhague, donc, est négocié dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le G192. Il y a les pays du Nord, il y a les pays du Sud, hein, c'est bien l'ONU le cadre de discussion là. Donc, est discuté un nouvel accord, hein, qui devrait être contraignant concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, participent à la discussion aussi bien les pays du Nord que les pays du Sud. Or, là, c'est un échange entre pays du Nord et pays du Sud, sans doute le plus important qu'on ait eu depuis la décolonisation. En effet, dans ces négociations se jouent des grandes questions internationales. Quel type de solidarité entre le Nord et le Sud? Quel type de coopération? Quelles institutions doivent être mises en place pour mettre en œuvre cette solidarité? Comment va-t-on gérer ça? Et entre autres, quel modèle de développement, aussi bien pour le Nord que pour le Sud? Mais ce sont des questions vraiment centrales à Copenhague. Et si vous avez un petit peu entendu ce qui se dit dans les radios, hein, les télévisions, concernant la préparation de la rencontre de Copenhague, puisqu'il y a eu des réunions préparatoires, aujourd'hui, il y a vraiment un bloc des pays du Sud, et c'est la première fois sans doute qu'il existe de cette manière-là, pour refuser un certain nombre de choses qui sont proposées par les pays du Nord. Et si il n'y a pas d'accord à Copenhague, ce qui est une forte probabilité, ce ne sera pas à cause des pays du Sud, mais ce sera aussi du fait que les pays du Sud ne sont pas prêts, hein, à accepter, hein, tout ce que voudraient leur faire accepter nombre de pays du Nord, parce qu'ils ont justement ces problèmes de pauvreté absolument cruciaux à résoudre. Et notamment, je vais en reparler, un enjeu central, bon, je peux le dire maintenant, c'est la reconnaissance par les pays du Nord, par nous, de la dette écologique. Nous avons suffisamment mis en avant la dette financière des pays du Sud par rapport aux pays du Nord. Cette dette qui ne s'arrête jamais, qui se renouvelle tout le temps, qui est responsable, on peut dire, c'est une dette criminelle, qui est responsable du fait qu'elle rend les pays du Sud, certains, totalement exsangues parce que c'est leurs revenus qui sont transférés finalement vers les pays du Nord. Et au nom de la dette, on a imposé aux sociétés des pays du Sud des cures d'amaigrissement dans des sociétés déjà extrêmement pauvres, excessivement graves. Bon. Eh bien, aujourd'hui, les pays du Sud disent, attention, on veut bien négocier, on veut bien un accord. Parce que les pays du Nord leur disent, maintenant, vous aussi, il faut que vous preniez des engagements pour ne pas polluer. Bon. On veut bien prendre des engagements, mais d'abord, il faut que vous reconnaissiez la dette écologique. Il faut que vous reconnaissiez que c'est vous les responsables, c'est votre richesse qui a fait notre pauvreté, en gros. Mais c'est votre richesse qui aujourd'hui est responsable du dérèglement climatique. Et donc, on doit mettre en place un système, certes, global, c'est nécessaire. On ne pourra pas résoudre la question écologique et la question climatique simplement à un niveau local. Il faut une articulation entre le global et le local, j'en reparlerai. Et donc, on veut bien s'engager, mais d'abord, vous reconnaissez la dette écologique. Alors, la dette écologique, elle ne peut pas s'apprécier monétairement. Bon, il y a des économistes qui essaient de la chiffrer. Tout simplement parce qu'il y a des tas de choses qui ne peuvent pas se chiffrer. Parce qu'il y a des phénomènes qui sont aujourd'hui irréversibles. Comment chiffrer la perte de biodiversité? Comment chiffrer ça? À partir de quels critères? Comment chiffrer le fait que des gens aujourd'hui, déjà à peu près 25 millions selon l'ONU, de personnes sont obligées de se déplacer, ne pourront pas retrouver leur terre? Comment chiffrer ça? Bon, donc, il est extrêmement difficile de donner un chiffre pour la dette écologique, mais il demande qu'on reconnaisse, que les pays du Nord reconnaissent la dette écologique, ça veut dire qu'ils s'engagent dès aujourd'hui à diminuer véritablement leurs émissions de gaz à effet de serre de manière très différenciée par rapport à eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander les mêmes efforts aujourd'hui aux États-Unis, à l'Union européenne, y compris à la Chine et aux pays d'Afrique ou du Bangladesh ou d'Amérique latine. Donc c'est d'accord pour un accord global, mais avec des responsabilités différenciées. Ces responsabilités différentielles sont reconnues actuellement par l'ONU dans un protocole qui s'appelle le protocole de Kyoto, qui différencie les pays industrialisés et les pays du Sud. Or, aujourd'hui, les pays riches tentent de sortir du protocole de Kyoto et de dire, nous devons avoir une vision partagée. Les pays émergents, vous allez l'entendre, les pays émergents aujourd'hui sont aussi responsables de la pollution, ce qui est vrai. Mais ce que répondent nombre de pays du groupe des 77, c'est engagez-vous, reconnaissez votre responsabilité spécifique, prenez des engagements très importants et nous suivrons. Mais nous ne voulons pas, nous refusons absolument hein, que la résolution de la crise climatique pèse plus spécifiquement sur les pays du Sud que sur les pays, que sur les pays du Nord. Et entre autres, ça veut dire, la demande, c'est que les pays du Nord, donc, s'engagent d'ici 2020 à une réduction de 40 à 45% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les recommandations du GIEC. Les pays du Sud s'appuient là-dessus. Pour les pays industrialisés, nous en sommes très loin, l'Union européenne propose 20%. Une baisse de 20%. Et si vous voulez, les pays donc, du G77 plus la Chine, ça fait 130 pays à peu près aujourd'hui, dans lesquels il y a vraiment les pays très pauvres, n'accepteront pas un accord dans lequel il n'y aurait pas cette reconnaissance. Et on craint qu'au niveau des médias, etc., on fasse porter la responsabilité d'un non-accord sur les exigences des pays du Sud. Alors que ce qu'ils demandent simplement, c'est d'accord, on veut bien s'engager, mais on doit tenir compte de la dette écologique. Bon, ça, c'est un enjeu extrêmement, extrêmement important qui sera porté et qui est porté par les mouvements sociaux dans les pays pauvres aussi, qui seront absolument très, très présents à Copenhague. De même, à Copenhague, va se jouer les questions du droit des peuples. Justement, puisque bon, votre forum, c'est sur les droits humains. Il est extrêmement important que les négociations climatiques se passent dans le cadre de l'ONU et ne sortent pas du cadre de l'ONU. Parce que les accords qui sont passés dans le cadre de l'ONU doivent respecter les autres accords de l'ONU, les autres dispositions, et notamment tout ce qui concerne les droits humains élémentaires. Et donc, nombre de peuples des pays du Sud s'appuient hein, sur les conventions de l'ONU, sur les droits humains, justement, pour faire valoir leurs droits. Et en particulier, ce sont les peuples indigènes, qui sans doute aujourd'hui dans le monde sont les pauvres parmi les pauvres, qui vivent de manière précaire, hein, souvent dans les forêts. Or, je ne vais pas rentrer dans les questions trop techniques sur Copenhague, mais aujourd'hui, on doit diminuer considérablement la déforestation. La déforestation est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global. On doit diminuer la déforestation. Mais ce qui est imaginé aujourd'hui, notamment par les puissances occidentales, Ce qui est imaginé, c'est la possibilité d'une ce qu'on appelle la gestion durable des forêts, qui pourrait être gérée par ce qu'on appelle aussi les mécanismes de développement propre, c'est-à-dire des investissements de firmes transnationales dans les pays du Sud qui initieraient une sorte de gestion durable de la forêt, au mépris des savoirs des peuples indigènes, au mépris même, de l'existence, de la vie des peuples indigènes dans la forêt. Donc, à Copenhague seront représentés, ce que sera représenté ce qu'on appelle le Forum des peuples indigènes. Ça représente à peu près 70 millions de personnes qui actuellement vivent dans la forêt et qui vont tenter de faire valoir leurs droits au nom des droits de l'ONU aussi, au nom de la reconnaissance des droits humains. De même aussi, les droits de 1969, c'est tous les peuples sont souverains sur leurs ressources. Il y a une souveraineté sur les ressources. C'est le droit des peuples à la souveraineté sur les ressources. Voilà pourquoi il est extrêmement important que ces négociations vraiment se passent dans le cadre de l'ONU, parce qu'elles doivent être compatibles avec les autres dispositions de l'ONU, et non pas dans le G20, par exemple, qui ne rendent compte à personne, qui est une espèce de directoire autoproclamé au niveau international, dans lequel on a ajouté quelques pays émergents, pour ne pas faire trop G8. Et de toute façon, les décisions seront prises au niveau du G7, G8 préalablement. Mais là, et c'est la difficulté aussi, mais c'est tout l'intérêt, c'est que dans la négociation ONU, c'est le G192. Et aujourd'hui, conscient de la richesse que les pays du Sud ont aujourd'hui, ils ne sont pas prêts tout à fait à tout céder au niveau de Copenhague. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'ils sont conscients de la richesse en biodiversité, ils sont conscients de la richesse au niveau de leur sol, d'ailleurs, il y a véritablement une tentative d'accaparement de leur sol, et ça, beaucoup ne veulent pas le brader. Et c'est extrêmement important parce que ça montre, si vous voulez, comment peuvent évoluer aussi des rapports de force et donc aussi des leviers de changement. Et en particulier, bon, j'en dis un mot avant de conclure, parce que l'heure tourne, il va y avoir quelque chose qui sera discuté à Copenhague qui paraît extrêmement important, qui est porté par des mouvements sociaux de Bolivie en particulier, et de Bolivie, mais aussi d'Équateur. Il y a des mouvements très importants là-dessus en Amérique latine. En Équateur, bon, nombre de mouvements sociaux écologistes ont poussé et ils ont gagné pour que le gouvernement d'Équateur, donc Rafael Correa, s'engage à ne pas exploiter le pétrole qu'il y a sous la forêt amazonienne dans l'Équateur. Il y a des réserves de pétrole énormes, dans l'Équateur, en Équateur, sous la forêt amazonienne. Donc il y a un discours de Rafael Correa aux Nations Unies dans lequel il dit: mon pays s'engage à ne pas exploiter le pétrole pour ne pas faire de la déforestation, pour préserver la biodiversité, pour respecter le droit des peuples indigènes qui vivent dans la forêt. Mais nous demandons une compensation internationale. Nous sommes un pays pauvre, très pauvre pour ce qui est de l'Équateur. Nous savons que nous enfermons des richesses extrêmement importantes dans notre sous-sol, la biodiversité, etc. Nous savons que nous avons une responsabilité qui n'est pas seulement locale, qui est globale. Parce qu'aujourd'hui, lancer l'exploitation du pétrole, c'est majorer encore la crise climatique. Nous en avons conscience. Il faut qu'il y ait une solidarité internationale. Voilà pourquoi il est si important que ça se passe dans le cadre de l'ONU. Et il est si important, ce que demandent tous les pays du Sud, qu'il y ait un fonds mondial pour le climat, qui soit alimenté par les États, que ce soit un fonds public avec des ressources publiques. Alors les pays du Sud disent: ce fonds mondial pour le climat, il doit être alimenté de manière obligatoire par les États, mais de manière différenciée en fonction de la responsabilité dans le changement climatique et en fonction du niveau de développement aussi. Et ce Fonds mondial pour le climat qui pourrait permettre justement ce type de transition, qui pourrait permettre de dire: mais le pétrole qu'il y a sous la forêt amazonienne, on le laisse sous la forêt amazonienne. Ainsi, on ne dégage pas de CO2, on ne fait pas de déforestation et on préserve des savoirs traditionnels, etc. Mais il faut qu'il y ait une mobilisation internationale pour que pour engendrer, si vous voulez, un type d'activité malgré tout, qui permette, au peuple d'Équateur ou de Bolivie aussi, il dit: je suis prêt à ne pas exploiter certaines mines, polluante, mais quelle solidarité internationale? Et donc, c'est ça qui se joue aussi à Copenhague. Donc, soit nous sommes capables de mettre en place des éléments, en tout cas des pistes qui ouvrent une possibilité de solidarité internationale, et il y a des projets alternatifs. Il y en a énormément, y compris de la part des États. Soit nous arrivons donc à poser le problème globalement en termes de solidarité internationale et en disant l'environnement, l'écologie, le climat, ce n'est pas un problème de riches, c'est un problème de pauvres aujourd'hui. Il faut absolument que les pauvres puissent lutter contre tous ces changements climatiques, écologiques, etc. Si nous arrivons à cela, très certainement, nous irons vers comment dire, des phénomènes transitoires qui permettront de résoudre à la fois la pauvreté, ou en tout cas de ne pas la croître et sans doute de la résoudre, et la question environnementale. Et dernier point que je voudrais dire, suite un peu à la discussion que nous avons eue pendant le repas, bon, je sais qu'il va y avoir une réunion spécifique sur Copenhague à Orléans, mais je pense que vraiment, comme mouvement citoyen, comme mouvement d'éducation populaire, etc., nous avons à nous saisir de ces questions-là. Ce sont des questions un peu compliquées. Ce sont des questions qui peuvent nous paraître lointaines. Mais évidemment, nous devons absolument arriver à lier le local et le global. Nous en discutions en mangeant. Il ne suffit pas aujourd'hui de penser global et agir local. Il faut agir global et agir local. Parce que les actions locales, absolument nécessaires, il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas d'action locale, à un niveau national, régional, local, voire individuel. Mais pour tout ceci, il faut qu'il y ait un cadre. Si aujourd'hui certaines municipalités mettent en place des plans climat, si certaines régions mettent en place des plans climat, si en France nous avons eu un Grenelle de l'environnement malgré tout, c'est que la France, dans le cadre de l'Union européenne, est malgré tout astreinte à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto. L'Union européenne est obligée d'ici 2012 de montrer qu'elle a réduit de 8% les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'Union. Et donc chaque État est contraint de faire des efforts importants, pas très importants, vous voyez, moins 8%, c'est pas beaucoup, mais c'était le protocole de Kyoto. C'est parce qu'il y a un cadre global que ça contraint à des niveaux beaucoup plus décentralisés, beaucoup plus locaux. Donc il ne faut surtout pas opposer le local et le global. Il ne pourra pas y avoir de transition écologique et de transition sociale s'il n'y a pas un cadre global. Et s'il y a seulement un cadre global sans réinvestissement au niveau local de tout cela, bien évidemment que rien ne changera. Et un des enjeux de Copenhague, je disais politique aussi, c'est que jusqu'ici, ces négociations climatiques étaient perçues par la population, je peux dire même par les militants, comme entre guillemets, réservé à une sorte de diplomatie climatique internationale sur des dossiers extrêmement techniques, des dossiers qui étaient réservés à des experts. Or, et c'est ça tout l'intérêt qu'il y a autour de la préparation de Copenhague, aujourd'hui, nombre de mouvements sociaux, y compris syndicaux, commencent à vouloir s'emparer du sujet. Parce que ce sujet-là n'est pas un sujet technique, c'est un sujet politique. Quelle répartition de richesse? C'est quoi la richesse? Ne doit-on pas redéfinir la richesse? Comment la répartir? Ce sont des enjeux politiques. Bon, évidemment qu'on a besoin des ressources de l'expertise, mais in fine, ce sont des enjeux qui nous concernent tous en tant que citoyens. Et ces négociations de Copenhague articulées avec nos luttes locales sont un moyen, je crois, d'une réaffirmation démocratique extrêmement importante et de l'affirmation d'une véritable écologie populaire. L'écologie, ce n'est pas un problème d'experts en écologie, ce n'est pas un problème d'experts environnementaux, c'est un problème du quotidien de chacun. Dans quelle société nous voulons vivre, dans quel monde, quelle production nous voulons privilégier, quel type de consommation nous voulons avoir, quel type de solidarité avec d'autres peuples ou avec d'autres catégories sociales nous voulons tisser dès aujourd'hui, pas pour les générations futures seulement. Parce que souvent on présente les questions écologiques comme la solidarité par rapport aux générations futures. Non. Ça c'est trop abstrait. Parce que les conséquences des dérèglements écologiques, elles sont aujourd'hui. Il y a 25 millions de déplacés aujourd'hui, de réfugiés climatiques. Il y a des gens qui en Afrique meurent du fait de la sécheresse ou au contraire des inondations en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine. Aujourd'hui, pas dans 50 ans. Hein, c'est dès aujourd'hui qu'il y a ce type de. Il y a eu la canicule, il y a les Nouvelles-Orléans, enfin, il y a des tas de phénomènes comme ça qui font que c'est une solidarité aujourd'hui. Et là, du fait de la globalité de la crise, la solidarité n'est pas automatique, hein, bien entendu, nous devons la construire. Mais sans solidarité, nous ne pourrons pas sortir de la crise. Ou nous y sortirons par des guerres pour les ressources, hein, par la poursuite de la prédation et sans doute des guerres de plus en plus importantes pour les ressources. Voilà, je vais m'arrêter là. Et après, je pense...